retour. Si vous venez de vous joindre à nous, vous vous demandez où est Denis Gravel. Pas trop loin. Il revient demain pour l'instant. Je m'appelle Audrey Pinchot. On est ensemble jusqu'à 18h avec Véronique Bergeron, Antonine Iaccarini. Et on s'en va rejoindre un invité à qui on aime bien parler quand faut jaser géopolitique, quand faut comprendre ce qui se passe à l'international. Et c'est passé des affaires en Hongrie en fin de semaine. Puis là, je ne ferais pas semblant de savoir où on s'en va de bord en bord, là, parce que Véro m'est arrivé en me disant « Hey, il y a de quoi là, c'est super intéressant. Il y a une montée de la droite en ce moment. Il y a une implication de la jeunesse comme c'est pas possible. »
En fait, en Hongrie, la droite était déjà installée. Depuis 16 ans. Puis il y a des montées ailleurs à travers l'Europe. Puis c'est comme si la Hongrie avait vécu un petit peu dans le futur avec, à sa tête, un président qui était beaucoup plus dans l'autoritarisme qu'autre chose. Puis
Viktor Orbán.
Puis là, la jeunesse s'est soulevée dans les dernières années pour créer un mouvement politique. Puis en tout cas, moi, j'avais le goût qu'Éric nous en parle parce que je trouve qu'il est tellement un bon vulgarisateur. Puis je trouve ça d'intérêt de regarder ce qui s'est passé en Hongrie au moment de l'élection, mais qu'est-ce qui a mené à ça aussi?
Ouais, ça va nous faire respirer un peu, j'ai l'impression, de changer un peu les sujets, exactement. Éric, salut!
Salut Audrey, ça va bien?
Ça va très bien, Éric Sauvé, qui est vétéran, mais qui est consultant surtout en défense et sécurité. Fait que là, on s'en va en Hongrie. Pour vous résumer, comme je vous disais avant la pause tantôt, dimanche, le conservateur pro-européen, il faut le dire, Peter Magyar, a remporté les élections avec une majorité des deux tiers, ce qui lui laisse la possibilité de défaire le système qui est installé depuis 16 ans de pouvoir. Pourquoi c'est important d'en jaser, Éric, hein?
Ben, c'est un bon résumé que tu as fait. Viktor Orbán était là depuis 16 ans. Il est rentré en 2010. Puis pour comprendre pourquoi il est rentré, c'est qu'en 2008, il y a eu une grosse crise financière au niveau mondial. Et Viktor Orbán est arrivé en disant « Je vais régler les problèmes. » Et en même temps, je vais régler les problèmes d'immigration, le fait qu'on ait perdu notre identité, le fait que l'Europe nous contrôle, parce qu'il y a beaucoup de pays européens qui pensent que le pouvoir est à Bruxelles. Et il a joué sur le nationalisme. Il a réussi à se faire réélire quand même trois fois. Donc, il est passé quatre fois dans les élections. Mais là, cette fois-ci, vraiment été mis à mal, comme tu as mentionné, par la jeunesse, qui est allée voter à 90 % pour des jeunes. C'est comme du jamais vu dans des pays comme ça, surtout des anciens pays de l'ex-Union soviétique où les gens ne croient pas beaucoup à la démocratie, aux élections fair, dans le fond.
Fait que c'est vraiment les jeunes qui ont fait basculer le vote, de ce que je comprends.
C'est que Viktor Orbán contrôle la société depuis longtemps en contrôlant les médias, la justice. Il a fait monter plusieurs compagnies qui sont près de lui, des gens qui sont milliardaires. Et réussir à faire passer son message par exemple sur les médias importants, les médias traditionnels. Mais les jeunes se sont organisés sur TikTok, Instagram, sur Reddit ont passé de l'information qui n'allait pas dans les médias traditionnels dont le message est contrôlé par le gouvernement.
Éric, Viktor Orbán, j'imagine que pendant toutes les années où il a été au pouvoir, il n'est pas du jour au lendemain devenu comme ça. Est-ce qu'il est devenu trop confortable et c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a des gens, dont une personne à l'intérieur de son parti qui est parti et qui l'a d'ailleurs battu aux élections en fin de semaine, donc comme fait, hey, là, ça n'a plus de bon sens, c'est allé trop loin.
Ben, c'est un peu la tendance des gens qui sont au pouvoir. Hein. On dit que le pouvoir corrompt, puis le pouvoir absolu corrompt de façon absolue. Déjà, Viktor Orbán, c'était quelqu'un de droite qui penchait vers l'extrême droite. Avec un gros mandat en 2010, dès la première année, il a changé la constitution pour rendre les changements plus difficiles, pour tout mettre en sa faveur. Et puis, ça fait 16 ans qu'il contrôle tout dans le pays. Comme j'ai mentionné, le juridique, les procureurs, les médias. Il y a beaucoup de compagnies. Puis là, si vous voulez, on peut faire un parallèle avec les États-Unis d'aujourd'hui.
Ben, je t'écoute depuis tantôt, puis on dirait que les parallèles se font aisément. D'ailleurs, J.D. Vance était allé l'appuyer quelques jours ou quelques heures avant l'élection. Lui est un pro-Poutine. Il me semble qu'il y a quasiment trop de parallèles à faire.
Ben, il y a des parallèles inquiétants à faire, justement, dans le sens que Trump a mis l'administration à sa main, a mis des loyalistes un peu partout. Et puis, l'effet pervers de ça, c'est que les gens qui sont droits, qui ne sont pas corrompus, eux quittent. Ce qui reste dans les institutions, ben, c'est les pro-MAGA, les pro-Trump. Ben, la même chose est arrivée, mais à la puissance 10 en Hongrie. Parce que les gens qui sont restés, c'est des gens qui vivent du régime Orbán, c'est des gens qui en ont profité. Mais là, du jour au lendemain, la difficulté de Peter Magyar, tu l'as mentionné, Il a travaillé avec Orban pendant, pendant plusieurs années. Il était dans son parti. Il a quitté le dénoncer. Mais là, il va faire face à des institutions hostiles qui ont opéré sous le même régime depuis plusieurs années. Et il va devoir remplacer beaucoup de gens. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Il y a quand même... Oui, il y a eu une belle victoire impressionnante qui repousse l'extrême droite dans ses derniers retranchements. Mais il y a un gros travail à faire maintenant pour livrer les promesses qu'il a faites durant
mais
la campagne.
Éric, qu'est-ce qui fait qu'il a gagné avec autant d'avance? C'est vraiment le fait qu'il a dénoncé?
Il y a un gros taux de participation aussi, je
division.
Pense.
Ben, en fait, les partis aussi de plus progressistes, plus à gauche, ont évité de diviser le vote, si j'ai bien compris.
Pourquoi lui, finalement?
Ben, lui, il a dénoncé la corruption avec des exemples précis. Il a montré aux gens, dans le fond, comment que Orban contrôlait un peu comme une marionnette tout le système. Parce que Orban, comme beaucoup des proto-dictateurs que j'appelle, ceux qui penchent vers la dictature, font semblant qu'ils ne contrôlent pas tout dans le pays, mais on sait que c'est eux qui payent les médias, qui payent grassement les compagnies. Maguire, étant du parti, a pu montrer de façon claire les choses qu'ils faisaient. Ils ont même sorti une vidéo où Orban parlait à Poutine, et dans la vidéo, Orban disait « Je suis à votre service ». C'est quand même incroyable que quelqu'un se penche de même devant le dictateur russe et dire je vais faire votre base besogne, votre travail. Fait que tout ça, ça a été exposé. Mais les jeunes aussi, il faut comprendre que oui, il y a de l'idéologie, mais il y a aussi le fait que le niveau de vie avait baissé de façon considérable. Je ferai un parallèle avec le Canada où ce que les maisons, c'est plus achetable, c'est difficile de s'installer dans la vie. Les jeunes en avaient aussi assez des choses de base, là, où l'économie est en ruine, le niveau de vie est pas comparable aux pays alentour. Fait qu'eux voyaient qu'est-ce qu'il y avait alentour, puis ils se sont dit, on va pas continuer dans la même lignée.
Bien, c'est ça, les jeunes sont vraiment au cœur de ce changement-là. On a l'impression que les jeunes, bon, premièrement, s'impliquent moins en politique, sont moins intéressés, sont moins représentés auprès de la classe politique aussi. Mais finalement, les grands changements sociaux, souvent, arrivent par la jeunesse. Et là, ce changement-là n'aurait pas été possible là, sans la jeunesse.
Écoute, j'enseigne à l'Université de Montréal un cours en criminologie qui s'appelle « Mouvements sociaux, violence et sécurité ». Et un de mes étudiants me dit « Est-ce que vous pensez que ça se peut être apolitique, c'est-à-dire ne pas s'intéresser à la chose politique ?» Et ça m'a beaucoup traversé l'esprit. J'ai écrit un article que je pense que c'était Le Devoir il y a quelques semaines là-dessus, disant « Si on est apolitique et on s'intéresse pas, ben c'est comme une autruche qui se met la tête dans le sable. » Quand les choses vont bien, quand le gouvernement ne fait pas de vagues, c'est correct de décrocher un peu puis de vivre sa vie. Mais quand un gouvernement est très corrompu, l'économie ne va pas bien, les gens qui se disent « j'ai pas de pouvoir », ben ils ne changent pas les choses. Les jeunes en Hongrie se sont dit « on a un pouvoir, c'est d'aller voter ». C'est ça qu'ils ont fait en masse. Puis ça le fait qu'ils ont complètement renversé le gouvernement. Mais je veux dire, il a perdu le 2/3 de ses sièges, Orban. Qui a permis à Maguire d'avoir une majorité du 2/3, puis lui-même pourrait changer la Constitution s'il le voulait à partir de maintenant.
Moi, ça me fascine que ça ait beaucoup passé par les plateformes de réseaux sociaux, comme tu nous expliquais. Là, tu sais, des fois, on a l'impression que ça sert strictement à rien, puis que ça nous mène nulle part, là, mais c'est là que tu vois qu'on est capable d'aller rejoindre les jeunes avec ces plateformes-là, puis ils sont capables de décider ce qu'ils veulent pour un futur aussi. Là.
Il y a même une expression par rapport à ça. Nous, dans les mouvements sociaux, on parle d'un mouvement collectif. Là, maintenant, une expression qui sort, c'est les mouvements connectifs, c'est-à-dire les gens sont connectés. On pense que les jeunes ne sont pas impliqués parce qu'on les voit pas nécessairement dans les rues, dans les manifestations. Mais il y a beaucoup de mouvements sociaux qu'on a étudiés récemment, au Maroc, entre autres, ou dans les printemps arabes, où les gens étaient très connectés. Il se passait beaucoup, beaucoup d'informations que l'État ne peut pas voir. Parce qu'ils ne sont pas sur ces réseaux-là. Fait qu'il y a de l'information qui se passe, comment s'organiser, quoi faire, comment se financer, qui sont les bons opérateurs. Tout ça se passe sur des réseaux que l'État ne peut pas contrôler. Ça a été la difficulté de Orban, puis c'est ça qu'il n'a pas vu venir non plus. Parce que lui contrôlait les médias traditionnels, la télé, la presse, mais ne contrôlait pas les médias sociaux.
Mais ce que je trouve triste, Éric, c'est qu'on dirait qu'il faut que le balancier soit rendu tellement loin pour qu'il y ait des réactions. Tu sais, là, est-ce que le paquebot va être retournable en Hongrie? On le sait pas, mais les exemples que tu as donnés, c'est des sociétés qui se sont retrouvées au bout de leur chaîne avant que ces mécanismes-là s'enclenchent, exactement.
Ben, j'aurais pas le choix de faire un parallèle avec les États-Unis.
Je le sais.
Avec ce que vous avez dit, parce que un des prochains articles que je vais écrire, c'est sur le mouvement No King's Day.
Oui, il y a pas beaucoup des grosses de gens manifestations, là.
Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Mes étudiants n'étaient même pas au courant quand je leur ai parlé. Juste pour montrer comment c'est pas sur le radar des médias. La dernière manifestation, il y avait environ 8 à 9 millions de personnes dans les rues, dans les grandes villes américaines. C'est une des plus grosses jamais vues. Mais ça, c'était un dimanche. Mais le lundi matin, tout le monde a pris sa boîte à lunch puis est retourné travailler comme si c'était rien passé. Je veux dire, c'est des coups d'épée dans l'eau, selon moi. Fait que les Américains, ceux qui sont frustrés de la situation, ont beaucoup de difficultés à s'organiser et à faire changer les choses. Même Donald Trump ne fait même pas de tweet sur les non-Kennedy, ou presque pas, pour montrer que ça ne l'affecte pas du tout.
Préfère les tweets sur le pape.
En fait, il voulait se présenter comme un médecin qu'il a vu aujourd'hui.
Un docteur de la Croix-Rouge, ben oui.
Docteur de la Croix-Rouge. Il y a toujours une réponse à tout.
Éric, j'ai envie de terminer en te demandant, est-ce qu'on doit apprendre d'une situation comme on a vu passer en fin de semaine en Hongrie? Parce qu'on est les premiers à tout le temps chialer. Ouais. On aime donc bien ça, le gouvernement il fait de la merde. Mais tu sais, tu vois que quand les gens se mobilisent, souvent ce qu'on pense pas en passant, parce que tu as l'impression que comme seule personne, tu peux rien changer. Mais moi, je trouve que c'est là que tu vois que quand on se mobilise, tu es capable de faire virer le bateau.
Ouais. Le défi de tous les partis politiques, que ce soit municipal, provincial, fédéral, c'est de faire sortir le vote. Et quand on parle de faire sortir le vote, c'est littéralement amener des gens à aller faire une petite croix dans un isoloir. Et souvent, c'est ça que ça prend pour faire changer les choses. Parce que aux États-Unis, regardez les dernières élections, 65% de participation, ce qui est élevé pour les États-Unis. Mais ça veut quand même dire qu'un électeur sur trois a décidé que lui, sa voix ne comptait pas. Avec des élections aussi importantes que Trump-Harris ou des gros mouvements comme ça, des gens qui se disent, peu importe ce qui se passe à tous les jours que je n'aime pas, je prends même pas le temps, une fois aux quatre ans, de prendre une heure puis d'aller voter. Ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est vraiment des gens qui ont décroché du système politique.
Hey Éric, je trouve ça toujours super intéressant. Tu as le don de nous mettre ça simple. Je vais te le dire, là, parce qu'il y a peu de gens qui arrivent ou qui aiment suivre la politique internationale ou ce qui se passe ailleurs parce que ça semble compliqué. Puis tu as le talent, mettons, de nous rendre ça plus simple. Éric Sauvé, qui est vétéran, qui est consultant en défense et sécurité, professeur, il fait tout ce gars-là. C'est pas compliqué. On se rechance bientôt, Éric. L'actualité internationale n'a pas terminé de bouger.
Merci, à la prochaine, Audrey.
Salut, à la prochaine. Bye. Hey, mon Dieu, c'était intéressant. Ouais. Quand tu m'as parlé de ça cette semaine, je me disais, bon, à quel point, mettons, on est capable de faire un calque sur ce qui se passe ici, tu sais.
Puis si, nous, on est tellement habitués, là, t'as les bleus, les rouges, t'as la gauche, la droite, t'as le oui, t'as le non. Là, c'est à l'intérieur d'un même parti qu'il y a une scission. C'est deux partis conservateurs qui l'appliquent différemment, qui se sont retrouvés à s'affronter.
En fait, c'était corrompu. Anti-corruption.
Ouais,
c'est vraiment un axe qu'on... Ben, il y a des gens qui vont nous écrire pour dire qu'il y a de la corruption ici, mais je veux dire, c'est sans commune mesure avec ce qu'on a connu là-bas. Plusieurs leçons à tirer, puis on en parlait, l'implication de la jeunesse, comment ça peut faire la différence.
Je lisais des articles, une jeune slameuse d'à peu près 15-16 ans qui, elle, s'est fait intimider à l'école, elle a dû changer d'école, un tas d'affaires parce que autour d'elle, il y en avait qui étaient pro-gouvernement, ou encore, il y avait des parents qui étaient pro-gouvernement, mais c'est ces voix-là qui se sont comme rassemblées, qui ont construit le mouvement, puis qu'ils ont permis de faire sortir le vote. Hey, le taux de participation était à combien? J'ai-tu vu 78%?
Oui, c'est très, très élevé. Tu vois, tantôt, je regardais ça, puis on est autour. Attends, je vais te le dire.
79,5% comme taux de participation.
C'est pas rien, là.
C'est vraiment pas rien. Puis tu voyais les médias qui allaient faire des vox pop, puis tu avais l'impression pourtant que la population allait voter pour la continuité. Mais ceux qui répondaient aux vox pop, c'était des plus vieux. Tout le temps. Puis les autres, tu les entendais pas. Exactement.
Il y avait un mouvement qui était comme une vague de fond. Puis tu le disais, ils se sont rassemblés. Mais c'est les plateformes aussi qui permettent ça. Puis par contre, il va falloir surveiller parce qu'il va y avoir un ressac probablement.
Absolument.
Si on regarde, on faisait plein de comparaisons avec les États-Unis. Le mouvement MAGA contrôle très, très bien ces réseaux parallèles. Mm-hmm. Eux, ils sont très connectés. Mm-hmm. Les plateformes, tu sais, évidemment, avec X, qui est contrôlé par Elon Musk,
True Social, avec Donald Trump.
Oui, puis avec tous les podcasters, YouTubers du mouvement MAGA, eux, les médias traditionnels, c'est le contraire. c'est beaucoup plus les médias numériques qui contrôlent.
Puis la Hongrie a un avantage que, mettons, des Américains qui en auraient contre le régime de Trump peuvent pas. La Hongrie fait partie de l'Union européenne. Puis si l'ancien régime était contre l'Union européenne, le nouveau est pour. Fait qu'à ce moment-là, tu as des alliés de proximité qui peuvent t'aider à te rebâtir. Puis il semblait y avoir de l'ouverture à peu près partout en Europe pour aider la Hongrie à se replacer dans le
J'ai hâte de voir, ça va prendre combien d'années?
Moi, je le dis, je suis fascinée, Audrey.
Changer un gouvernement, c'est une chose, ça peut être rapide, mais changer un système, ça peut quand même prendre
après
des 16
ans,
années.
Là, ouais.
Non, c'est quand même fascinant.
Et puis, je suppose une experte de la Hongrie, mais aussi quand je vois des mouvements très forts pour mettre quelqu'un au pouvoir, j'espère toujours que la personne qui sera mise au pouvoir va pas se mettre, elle aussi, à abuser
Exactement.
De son statut. Ouais.
À l'occasion, fait le larron, qu'ils disent. Mm-hmm.
Vous avez envie de réentendre ces entrevues-là qu'on fait de temps en temps avec Éric Sauvé. C'est toujours sur le blvd.fm. Ça va être sorti dans les prochaines minutes. Si vous venez d'arriver, vous avez des questions, des commentaires, 88 971 101 texto. On revient dans quelques minutes. Vous êtes dans Gravel en retour. Pour joindre l'équipe.